Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin est professeure de philosophie, auteure de Nouvelles morales provisoires aux éditions de l'Observatoire.
Bonjour à vous Raphaël Enthoven.
Bonjour Léa,
merci
bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Force de l'ordre agressée d'un côté, violence policière de l'autre, journaliste caillassée, insultes effrénés de tous contre tous sur les réseaux sociaux. Tous les samedis depuis 3 mois, ces jours de colère en France. Est-on dans un moment de panique morale, ce concept philosophique qui définit ce moment où tout le monde s'affronte et plus personne ne sait quoi penser?
On est dans un moment de désir moral, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où on désire des principes, on veut réaffirmer des valeurs et on oublie de se demander quelle est la valeur de nos valeurs. On affirme des choses, on décrète des choses, mais on discute finalement assez peu. C'est ça qui est étonnant dans ce moment, c'est qu'on a toutes les apparences du débat. Apparemment, tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait un vrai débat et que les gens se parlent enfin. Et en fait, le débat, je crois, est compromis par le fait que la logique n'est pas une logique contradictoire, c'est-à-dire de discussion, où on met la vérité en partage. C'est plutôt une logique d'opposition systématique. Vous avez d'un côté un camp qui s'attribue le monopole de la colère, de l'autre côté un camp qui s'attribue le monopole de la vérité. Derrière la colère, on soupçonne la haine. Derrière la vérité, on soupçonne le mépris. Je veux dire, c'est le bordel. Enfin, c'est structurellement, on n'est pas du tout sorti de l'auberge, pardon de le dire comme ça, mais c'est très frappant de voir à quel point les gens désirent se détester plus que parler.
Et c'est ça. Avant de parler du grand débat national, vous allez me dire ce que vous en pensez d'un point de vue philosophique sur la violence et sur la haine. De plus en plus de vidéos montrent des violences policières qui semblent outrepasser le seul maintien de l'ordre. Les flashballs, par exemple, font des dizaines de blessés. Quelle est la limite de la violence légitime de l'État? Est-ce que ça vous interroge, cette question?
Bien sûr, mais la limite, elle est légale. Il y a des moments où la violence est policière et délictueuse, et il y a des moments où, comme dit Max Weber, elle est seule légitime. Enfin, elle est toujours seule légitime, mais il y a des moments où les policiers en font trop. Et il est essentiel, indispensable, de montrer les images, de désigner les policiers et de les sanctionner. Sinon, on est dans un régime de deux poids, deux mesures. Non, le problème de la violence, indépendamment du fait que ça fait mal, c'est que ça empêche définitivement la discussion, ça la compromet durablement. Et ce qui était étonnant avec l'initiative du président de la République, les 7 heures passées devant les maires, etc., c'était les commentaires des gens qui veulent récupérer le mouvement des Gilets jaunes. Laurent Wauquiez a décrété que lui, il allait sur le terrain, pas dans les gymnases. Mélenchon a dit c'est une supercherie a priori avant d'aller bouder. Marine Le Pen a parlé d'opération de com. C'est-à-dire que vraiment le refus de débattre était préalable au débat. C'est pas une conséquence des propositions qui ont été émises, c'est un principe au départ. Un point encore.
C'est aussi un principe, peut-être parce que dans sa lettre, Emmanuel Macron n'a pas dit ce qu'il allait faire des conclusions du débat.
Effectivement, vous avez raison. En même temps, ce qu'il y avait d'intéressant dans la lettre de Macron, c'est qu'il demandait à ses concitoyens de se mettre à la place de celui qui gouverne. Ce qui est un précepte aronien, c'est Raymond Aron qui disait ça. Il faut toujours se mettre à la place, toujours penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent. Et les imbéciles y ont vu une défense de l'ordre établi. C'est pas une défense de l'ordre établi, c'est une défense du possible. C'est-à-dire qu'il vaut mieux penser en sachant ce qu'il est possible de faire. Et quand il met ses concitoyens face à des contradictions éventuelles, face à des paradoxes, comment on fait pour baisser la fiscalité tout en développant la transition écologique, etc. Quand il les confronte à ce genre de paradoxes, il les met en situation proprement républicaine de penser eux-mêmes comme s'ils étaient gouvernants. Et je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant.
Alors, mais quand il leur dit on ne touchera pas à l'ISF, quoi que vous disiez.
Ça pose un problème, c'est-à-dire que il dit pas exactement ça. Il dit si on touche à l'ISF, soyons clairs, si on touche à l'ISF, ça ne changera pas la vie des Gilets jaunes. La volonté d'ISF est une volonté de sanction plus qu'une volonté de solution. Il s'agit pas de trouver une solution en rétablissant l'ISF, mais de punir ceux qui gagnent trop. C'est ça son discours. On peut adhérer ou non à son discours, mais il y a au moins une cohérence à ça.
On entend à nouveau parler de quenelle. Les injures et graffitis antisémites font floresse. La haine antisémite qui ne résume pas, et on fait attention, la haine antisémite ne résume pas la colère des Gilets jaunes. Est-ce qu'elle est selon
vous... Non,
vous
allez vous faire gronder par Raskolovitch si vous dites ça.
C'est pas grave. Est-ce qu'elle est selon vous significative ou c'est l'affaire de quelques groupes isolés, comme dit Raskolovitch?
Moi, j'ai tendance à penser que l'antisémitisme est une passion fondamentale des démocraties, parce qu'il faut un bouc émissaire aux démocraties de façon générale. Donc, il faut désigner quelqu'un qui dispose en secret des pouvoirs, ce qui est indémontrable et donc irréfutable, et ce qui permet de s'en servir. Le juif a toujours occupé cette place. L'homosexuel occupe cette place aussi. Ce qui est intéressant, c'est que le bouc émissaire, la figure du bouc émissaire, est une figure qui ressemble à tout le monde. C'est un autre dont l'altérité n'est pas aisément reconnaissable. On peut tous être juif. Si ça se trouve, il y a des juifs dans cette salle. Si ça se trouve, il y a des homosexuels dans cette salle. Mais si, Thomas, mais si, ne soyez pas... Enfin, on ne sait jamais. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que le bouc émissaire a besoin d'avoir un visage un peu anonyme. On a besoin de penser que si ça se trouve, on en fait partie nous aussi. Comme les gilets jaunes. Il suffit, tout à l'heure, que vous enfiliez un gilet jaune, ou moi, pour devenir un gilet jaune.
Mmh. Vous écrivez dans votre livre, votre nouveau livre, Nouvelle morale provisoire, le complotisme est un symptôme qui se prend pour un diagnostic. Aujourd'hui, chacun se sent prêt, en consultant 3 pages sur Internet, à remettre en cause la vie des historiens, des professeurs, voire même de son médecin. Est-ce qu'il n'est pas là, dans ce relativisme, le grand danger de la démocratie?
Alors, vous appelez ça relativisme? On peut parler de relativisme. J'ai tendance à penser que c'est le résultat d'une confusion démocratique, qui est vraiment historique, hein, entre d'un côté l'égalité des droits, sur le papier nous avons en principe des droits égaux, et l'équivalence des compétences. On fait comme si le fait que nous ayons des droits égaux nous valait compétences égales. Du coup, le résultat de ça, c'est que vous avez des gens qui, après avoir passé 10 minutes sur Doctissimo, vont faire la morale à leur médecin, ou bien des élèves qui expliquent à leurs profs qu'ils sont nuls, qui se conduisent en consommateurs. Et cette confusion entre l'égalité des droits et l'équivalence des compétences est une confusion qui permet un rapport sentimental à ce qu'on croit savoir. En gros, j'ai le droit démocratique de penser que le gouvernement a organisé les attentats de Strasbourg pour détourner l'attention. Prouvez-moi le contraire. C'est comme ça qu'on raisonne. Alors, c'est complètement idiot comme façon de raisonner, parce que on a antéposé quelque chose, on a décrété quelque chose, et ensuite on essaie de trouver des preuves de ce qu'on a décidé au départ de façon arbitraire. Mais enfin, c'est ainsi qu'on raisonne. Et avec les réseaux sociaux, un raisonnement fallacieux comme ça est un raisonnement étayé par des millions de suffrages. Et donc, c'est un raisonnement qui, de façon un peu gazeuse en fait, existe tout ça. Il devient
parce
vérité.
Qu'il est là. Liké par 1000, 2000, 10 000 personnes.
C'est que le critère de vérité n'est plus la vérité, mais la quantité, tout simplement. Et qu'à partir de là, un mensonge peut lui-même se persuader qu'il devient vérité.
Les réseaux sociaux ont le QI d'un mouton, mais la mémoire d'un éléphant, écrivez-vous dans votre livre. Twitter est-il un espace de débat ?
Oui et non. C'est un espace qui célèbre le débat et qui le compromet en permanence. C'est un espace où on croit que débattre, c'est uniquement exprimer son opinion et brandir son opinion comme si elle était une vérité. Le premier devoir d'un débatteur, c'est de brandir son opinion comme elle, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une parcelle de vérité qu'il propose et qu'il échange et à laquelle il est prêt à renoncer. Or, cette condition liminaire du débat, elle n'est pas sur Twitter, puisque sur Twitter, il s'agit non seulement de dire ce qu'on pense, mais de dire ce qu'on est en disant ce qu'on pense. Et de reprocher à celui qui dit ce qu'il pense ou qui essaie de réfléchir, de parler en tant que ce qu'il est et non pas en tant que...
Et de refuser la complexité et la nuance, puisqu'il faut tout dire en 200 signes.
Alors, c'est pas tellement la ténuité du tweet qui compromet la nuance, je crois que vraiment le désir de prendre son opinion pour la vérité et le danger qu'il y aurait à introduire des nuances là où les gens recherchent de l'unanimité, de l'unanimisme. Cela dit, il arrive sur Twitter, de façon tout à fait singulière, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est singulier, mais en même temps que les gens le voient, que quelqu'un qui vous agresse d'abord en affirmant une vérité ou en vous désignant comme un monstre ou un salaud, soudain s'aperçoive, parce qu'on lui répond avec civilité, qu'en réalité, ça n'est pas le cas, et finalement,
alors,
on se serre la main.
Pour répondre, vous répondez beaucoup.
Oui.
Hein, beaucoup.
La pas philosophie. Tant que ça,
alors, mais si j'ai compté, Raphaël Hunter.
Ah bon ?
La philosophie que vous enseignez n'a-t-elle pas forcément besoin de hauteur, de distance et de temps pour essayer de comprendre le monde ? Et quand je vois que vous avez tweeté 190 fois depuis le 1er janvier, soit une moyenne de 12 tweets par jour, je me demande, est-ce que Raphaël Hunter est à oublier ses préceptes philosophiques et est complètement contaminé par la maladie de l'immédiateté et marabouté par les réseaux sociaux?
J'ai la maladie de l'immanence. Je n'ai jamais associé l'exercice de la philosophie à une prise de hauteur. S'il faut s'élever, c'est s'élever à la hauteur de ses élèves ou de ses interlocuteurs. Ça n'est pas se pencher vers eux avec condescendance en essayant d'importer le monde des idées dans la blafardise du réel. Non. Il faut s'élever à hauteur des interlocuteurs qu'on a. Tout le monde est digne d'une discussion. Chaque personne prise individuellement est aussi intelligente qu'un humain peut l'être. Ce sont les foules qui sont dangereuses. Et sur Twitter...
Donc vous n'êtes pas pris d'une frénésie de tweets, vous...
Si, bien sûr, je suis pris d'une frénésie de tweets. C'est-à-dire que j'aime à discuter sur cet espace parce que c'est un concentré de mauvaise foi, de vertu. Parfois, il y a des trouvailles extraordinaires. Ouais. J'aime y aller parce que c'est un feu d'artifice.
C'est terminé, donc vous n'allez pas pouvoir me lire le texte que vous avez ramené, mais dites-nous, pour penser le moment, qu'il faut lire, qui il faut lire ?
Tocqueville, Alexis de Tocqueville, dans La démocratie en Amérique en 1835, il a notamment cette intuition prodigieuse qui est de dire que plus il y a d'individualisme, plus il y a de tyrannie possible. Toujours plus d'individus, toujours plus d'États, l'un ne décroîtra pas sans que l'autre recule. Voilà.
Raphaël Hunter était notre invité, nouveau livre, Nouvelle morale provisoire, ça sort dans 10 jours aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous et belle journée.
Merci, bonne journée.
Merci Léa, rendez-vous à 8h20.